Give me my freedom.
Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, il y a eu une tentative de coup d'État en Turquie, principalement à Ankara et Istanbul. Cette tentative de coup d'État a été commanditée par un conseil de la paix dans le pays, une faction des forces armées turques que le gouvernement turc accuse d'être liée à Fethullah Gulen. La tentative s'est soldée par un échec et le dernier bilan officiel fait état de plus de 290 morts et beaucoup d'arrestations. Asli Erdogan, on n'enfermera pas sa voix. Asli Erdogan est né en 1967. Il s'agit d'une romancière turque, journaliste et militante pour les droits de l'homme.
Voici l'appel lancé par Thierry Briet et Ricardo Montserrat Galindo le 15 novembre 2016. C'est donc la prison à vie qu'ont réclamé, ce jeudi 10 novembre 2016, les procureurs d'Istanbul contre Asli Erdogan. Et l'emprisonnement d'une romancière jusqu'à sa mort, c'est l'assassinat prémédité d'une littérature qui entend rester libre. Alors, si les théâtres et les lieux d'art demeurent des lieux vivants sur ce vieux continent, des lieux soucieux d'humanité et d'une littérature encore en vie, ils doivent aussi servir à diffuser la parole d'une romancière emprisonnée pour ses écrits. Lisons partout les textes d'Asli Erdogan à voix haute, partageons leur beauté face à un État devenu assassin jusqu'à la libération d'Asli Erdogan. Suite à notre appel, voici les premiers textes que nous avons rassemblés, trois phases emblématiques de sa pensée et de son écriture pour commencer. Puis cet autoportrait qu'elle a écrit voici quelques années. Ensuite, trois extraits du Bâtiment de pierre, son dernier livre traduit en français, et enfin, la lettre qu'Asli Erdogan a écrite en prison ce 1er novembre 2016. Nous avons rassemblé ces textes pour qu'ils circulent autant que possible, d'autres suivront, ils appartiennent à tous ceux qui veulent défendre une littérature vivante et impossible à soumettre. Diffusez-les par mail, sur les réseaux sociaux et les blogs, en les affichant sur les murs de nos villes, en les lisant dans les théâtres, les festivals, les nuits debout, les repas entre amis, partout où vous pourrez. Prévenez-nous de chaque action, nous essaierons de les recenser et de les faire savoir solidairement. Thierry Briet et Ricardo Montserrat Galindo, le 15 novembre 2016.
Un autoportrait par Asli Erdogan. Je suis née à Istanbul en 1967. J'ai grandi à la campagne, dans un climat de tension et de violence. Le sentiment d'oppression est profondément enraciné en moi. L'un de mes souvenirs, c'est à 4 ans et demi, lorsqu'est venu chez nous un camion rempli de soldats en armes. Ma mère pleure. Les soldats emmènent mon père. Ils le relâchent plusieurs heures après, parce qu'ils recherchaient quelqu'un d'autre. Mon père avait été un dirigeant important du principal syndicat étudiant de gauche. Mes parents ont planté en moi leurs idéaux de gauche, mais les ont ensuite abandonnés. Mon père est devenu un homme violent. Aujourd'hui, il est nationaliste. J'étais une enfant très solitaire qui n'allait pas facilement vers les autres. Très jeune, j'ai commencé à lire, sans avoir l'intention d'en faire mon métier. Je passais des journées entières dans les livres. La littérature a été mon premier asile. J'ai écrit un poème et une petite histoire que ma grand-mère a envoyée à une revue d'Istanbul. Mes textes ont été publiés, mais ça ne m'a pas plu du tout. J'étais bien trop timide pour pouvoir me réjouir. Plusieurs années plus tard, à 22 ans, j'ai écrit ma première nouvelle qui m'a valu un prix dans un journal. Je n'ai pas voulu que mon texte soit publié. J'étais alors étudiante en physique. Je suis partie faire des recherches sur les particules de haute énergie au Centre européen de recherche nucléaire de Genève. Je préparais mon diplôme le jour et j'écrivais la nuit. Je buvais et je fumais du haschich pour trouver le sommeil. J'étais terriblement malheureuse. En arrivant à Genève, j'avais pensé naïvement que nous allions discuter d'Einstein, de X et de la formation de l'univers. En fait, je me suis retrouvée entourée de gens qui étaient uniquement préoccupés par leur carrière. Nous étions tous considérés comme de potentiels prix Nobel sur lesquels l'industrie misait des millions de dollars. Nous n'étions pas là pour devenir amis. C'est là que j'ai écrit « Le mandarin miraculeux ». Au départ, j'ai écrit cette nouvelle pour moi seule, sans l'intention de la faire lire aux autres. Elle a finalement été publiée plusieurs années plus tard. Je suis retournée en Turquie, où j'ai rencontré Sokuna, dans un bar reggae. Il faisait partie de la première vague d'immigrés africains en Turquie. Très rapidement, je suis tombée amoureuse de lui. Ensemble, nous avons vécu tous les problèmes possibles et imaginables. Perquisition de la police, racisme ordinaire, on se tenait la main dans la rue, les gens nous crachaient dessus, m'insultaient ou essayaient même de nous frapper. La situation des immigrés était alors terrible. La plupart étaient parqués dans un camp à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Plusieurs fois, j'ai essayé d'alerter le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU sur leur sort. Mais c'était peine perdue. Je ne faisais que nous mettre davantage en danger, Sokuna et moi. Puis Sokuna était impliqué dans une histoire de drogue et il nous a fallu partir. Des amis m'ont trouvé une place dans une équipe de scientifiques au Brésil qui travaillait sur ma spécialité. Je pouvais y terminer mon doctorat, mais Sokuna n'a pas pu me suivre. Il a disparu un an après. Je suis restée seule avec mes remords. Rio n'est pas une ville facile à vivre pour les migrants. J'ai alors décidé de renoncer à la physique pour me consacrer à l'écriture. Mais ce n'est qu'à mon retour en Turquie que j'ai écrit La ville dont la cape est rouge, dont l'intrigue se passe à Rio. L'héroïne est une étudiante turque qui se perd dans l'enfer de la ville brésilienne. J'étais étrangère au Brésil, mais aussi étrangère en Turquie. Je ne me sens chez moi que lorsque j'écris. 20 ans plus tard, aujourd'hui, je me sens toujours comme une sans-abri. J'aime bien Cracovie, je pourrais y rester encore longtemps, mais je sais bien qu'il faut laisser la place à ceux qui attendent un asile. Il faudra bien que je retourne en Turquie. En attendant, chaque jour, je me dis que dans mon pays, tout le monde sait bien que je suis devenue l'écrivaine turque la plus populaire. Tout le monde le sait, mais pourtant, tout le monde se tait. C'est sans doute cela, aujourd'hui, l'exil le plus terrible. Et voici 3 extraits du Bâtiment de pierre, donc écrit par Asli Erdogan. C'est de la collection Actes Sud et c'est traduit du turc par Jean Descat. Donc voici le premier extrait.
Si l'on veut écrire, on doit le faire avec son corps nu et vulnérable sous la peau. Les mots ne parlent qu'avec les autres mots. Prenez un V, un I et un E et vous écrivez « vie ». À condition de ne pas vous tromper dans l'ordre des lettres, de ne pas, comme dans la légende, laisser tomber une lettre et tuer l'argile vivante. J'écris la vie pour ceux qui peuvent l'accueillir dans un souffle, dans un soupir. Comme on cueille un fruit sur la branche, comme on arrache une racine. Il te reste le murmure que tu perçois en plaçant contre ton oreille un coquillage vide. La vie, mot qui s'insinue dans ta moelle et dans tes os. Murmure évoquant la douleur, son qu'emplissent les océans.
Deuxième extrait.
Autrefois, j'ai aimé quelqu'un. Il est parti en me laissant ses yeux. Il n'avait personne à me laisser. Aimer. Ce mot-là, je l'ai trouvé en fouillant dans mon cœur, en sondant inlassablement ses épaisses ténèbres. Mais personne ne m'a dit que chacun tue celui qu'il aime. Nous étions ensemble dans l'édifice de pierre. J'ai longtemps prêté l'oreille au bruit. Quand mon tour est venu, le jour n'était pas encore levé. Bien sûr, vous ne me croyez pas. Vous pensez que ce bâtiment est issu de mon rêve. Mais nos rêves ne sont-ils pas le levain de la pâte dont nous sommes pétris? Finalement, l'aube va naître, des traînées rouges sang vont apparaître à l'horizon. Dans le ciel tendu, terne, tout plat, les étoiles vont se solidifier et disparaître l'une après l'autre. La dernière laissera pendre une corde vers le bas, vers nous. Ta nuit muette, tes mots coupés en deux et ensanglantés, tes ombres errantes, privées de leur maître, tes rêves couleur de cœur dont personne ne veut, tes mots ailés vont pouvoir y grimper. Tous tes rêves venus vivre parmi nous et repartis sans crier gare vont pouvoir se hisser vers les profondeurs, dans les tréfonds où se perdent tout homme et toute chose. Mais vous ne m'entendez pas? J'aurais peut-être dû faire mon récit au passé. J'ai attaqué ma chanson dans le mauvais sens, par la mauvaise note.
Troisième extrait du Bâtiment de pierre.
Parfois, pourtant, très rarement, j'entends en moi une voix qui ne semble ni émaner d'un être humain, ni s'adresser aux hommes. J'entends mon sang qui se réveille, coule de mes veines blessures, jaillit de mes veines ouvertes. J'entends des cris qui ravivent mes plus anciennes, mes plus authentiques terreurs, et je me rappelle qu'ils sont nés du désir de vivre. Mes plaies ne parlent guère, mais elles ne mentent jamais. Pourtant, leurs cris affreux, incohérents, viennent se briser sur des murs infranchissables et retombent en pluie sur ce sol, devenu mensonge, que sont le visage et le verbe des hommes. Leur son s'égare dans les méandres, les recoins, les impasses d'un labyrinthe et se propage dans le vide sans rencontrer un seul cœur.
Lettre de prison. Chers amis, collègues, journalistes et membres de la presse, je vous écris cette lettre depuis la prison de Bakirkoï, au lendemain de l'opération policière à l'encontre du journal Cumhuriyet, un des journaux les plus anciens et voix des sociodémocrates. Actuellement, plus de 10 auteurs de ce journal sont en garde à vue. 4 personnes, dont Kan Dunar, ex-rédacteur en chef, sont recherchés par la police. Même moi, je suis sous le choc. Ceci démontre clairement que la Turquie a décidé de ne respecter aucune de ses lois, ni le droit. En ce moment, plus de 130 journalistes sont en prison. C'est un record mondial. En 2 mois, 170 journaux, magazines, radios et télé ont été fermés. Notre gouvernement actuel veut monopoliser la vérité et la réalité, et toute opinion, un tant soit peu différente de celle du pouvoir, est réprimée avec violence. La violence policière, des jours et des nuits de garde à vue, jusqu'à 30 jours. Moi, j'ai été arrêtée seulement parce que j'étais une des conseillères d'Özgür Gündem, journal kurde. Malgré le fait que les conseillères n'ont aucune responsabilité sur le journal, selon l'article numéro 11 de la loi de la presse qui le notifie clairement, je n'ai pas été emmenée encore devant un tribunal qui écoutera mon histoire. Dans ce procès kafkaïen, Nesmin Alpey, scientifique linguiste de 70 ans, est également arrêté avec moi et jugé pour terrorisme. Cette lettre est un appel d'urgence. La situation est très grave, terrifiante et extrêmement inquiétante. Je suis convaincue que l'existence d'un régime totalitaire en Turquie secourait inévitablement, d'une façon ou d'une autre, aussi l'Europe entière. L'Europe est actuellement focalisée sur la crise de réfugiés et semble ne pas se rendre compte des dangers de la disparition de la démocratie en Turquie. Actuellement, nous, auteurs, journalistes, kurdes, alévis, et bien sûr les femmes, payons le prix lourd de la crise de démocratie. L'Europe doit prendre ses responsabilités en revenant vers les valeurs qu'elle avait définies après des siècles de sang versé et qui font que l'Europe est l'Europe. La démocratie, les droits humains, la liberté d'opinion et d'expression. Nous avons besoin de votre soutien et de solidarité. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour nous jusqu'à maintenant. Cordialement, Asli Erdogan, le 1er novembre 2016, Bakirkoy, Kazevi, C9. Traduit du turc par Kédistan le 3 novembre 2016.
Deuxième recueil d'écrits d'Asli Erdogan.
Entre mon vrai visage et son reflet, dans la vitre, le temps et le néant, parmi tout ce qui ne peut être dit avec des mots, je suis là, à cette heure sombre où j'aurais souhaité être ailleurs, dans un autre temps. Je suis dans la nuit, toujours la même, infinie, la nuit ambrée. Asli Erdogan, Je t'interpelle dans la nuit, traduit du turc par Essine Soyal d'Auvergne, édition Mythe 2009.
Nous continuons. Parce qu'il faut défaire le silence des prisons turques où ceux qui s'opposent à une politique de la haine sont enfermés par milliers. Nous voulons leur liberté immédiate et faire entendre la voix de celle qui écrit, enfermée parmi eux, par ses livres et ses chroniques dans la presse. Asli Erdogan est devenue la voix des sans-voix, la voix des réfugiés qui s'amassent par millions dans les campus turcs, la voix des sans-abri et des minorités. La voix des Kurdes que l'État turc veut condamner au cimetière. Nous refusons. Et les écrits d'Asli, nous continuerons de les dire à voix haute, les crier, s'il le faut, jusqu'à sa libération définitive. Ce deuxième recueil est un geste d'insoumission. Nous sommes nombreux à refuser l'emprisonnement de ceux qui écrivent envers et contre toutes les violences d'un État devenu meurtrier. Nous n'allons pas regarder en silence. Nous ferons entendre la parole d'Asli Erdogan partout, où la parole est encore libre. Ricardo Montserrat et Thierry Briette, le 18 novembre 2016.
Trois fragments de la ville dont la cape était rouge. Ce livre a été publié en 1998 en Turquie, puis en France en 2003, aux éditions Actes Sud. Le début de l'histoire peut se résumer ainsi. Özgür, une étudiante istanbouliote, arrive un jour à Rio en pensant loger chez un universitaire. Un taxi la conduit à l'adresse indiquée, où malheureusement on ne l'attend pas. Seule dans cette ville débordante de sensualité, mais aussi de terreur, elle décide de rester.
Elle avait croisé la mort à chaque coin. Une mort engraissée, vorace, capricieuse, s'était infiltrée dans chaque mot qu'elle avait écrit. Pourtant, ce qu'elle pourchassait dans les labyrinthes sombres, c'était autre chose. Ce qu'elle cherchait dans les favelas misérables, dans les regards voilés des sans-abri, au-delà des masques de carnaval. La passion désespérée du corps pour la vie, plus vieille et plus puissante que tous les mots.
Au début, elle s'était réfugiée dans la littérature, son amie de toujours. Elle avait cherché un écrivain qui puisse éclairer la nuit qui régnait en elle et qui devenait de plus en plus profonde.
Un écrivain avait dit « Pour connaître l'homme, il faut aller loin. » Ce n'est qu'après être allé si loin qu'elle en savait plus sur les latinos. « No ire foras, ne va pas dans le lointain, la réalité est au fond de toi. » Il fallait peut-être franchir l'enfer pour pouvoir renaître, traverser les tropiques dangereux, infernaux, tristes. Elle avait rejeté le monde qu'on lui avait offert. Elle avait rassemblé toutes ses forces dans un seul but. Attraper Rio de ses mains comme un papillon et l'enfermer dans ses propres mots sans la tuer. La ville dont la cape est rouge était née. Asli Erdogan, La ville dont la cape est rouge. Traduit du turc par Essine Soyal d'Auvergne, Actes Sud 2003.
Deux pages de la ville dont la cape est rouge, le fou de Santa Teresa.
Après un certain point, on ne peut plus revenir en arrière. C'est ce point qu'il faut atteindre. Kafka.
Au début, la pauvreté, qui était la condition majeure du vagabondage, était entrée petit à petit dans sa vie. Pareille à une tumeur métastasique, envahissant sournoisement tout le corps, elle l'avait surprise soudainement. Lorsqu'elle avait été renvoyée de l'université, elle espérait enseigner l'anglais dans l'une des centaines d'institutions répandues aux quatre coins de la ville. Mais ses calculs étaient faux. Tous les postes étaient occupés soit par des Américains vacanciers ou aventuriers, soit par des professionnels ayant passé leur vie à l'enseignement de l'anglais. Personne n'avait confiance en cette femme qui venait d'un pays inconnu. Pendant tout le mois de janvier, où la température atteignait 40 degrés à l'ombre, elle prenait les bus bondés où régnait une mauvaise odeur. Elle parcourait toute la ville, en écrivant différents CV, du matin jusqu'au soir, parmi des gens exténués de fatigue. Elle avait des entretiens sans résultat avec des responsables chics et arrogants. C'était de jeunes professionnels pour qui le fait d'être professeur d'anglais était la tâche la plus importante du monde. Il en était de même pour tout ce qu'ils faisaient. Ils étaient amoureux de leur carrière et, comme s'ils voulaient montrer leur pomme d'Adam, ils redressaient leur menton vers le haut. Ils analysaient d'un seul regard la femme au teint blafard qui se tenait en face d'eux, la situait en voyant son sac déformé, ses talons usés, ses cheveux décoiffés. Après de longues démarches, elle parvint à trouver un poste, mais fut aussitôt renvoyée pour n'avoir pas coopéré avec les élèves et avoir gardé ses manières de professeur d'université. Finalement, avec beaucoup de difficultés, elle trouva quelques élèves. La plupart étaient des ingénieurs fatigués d'être seuls, qui avaient des rapports incestueux avec leur ordinateur, et leur désir d'apprendre l'anglais disparaissait aussitôt la première invitation à dîner refusée. Au fur et à mesure, Osgur avait été contrainte de prendre des mesures, à augmenter ses privations. Il n'était plus question qu'elle s'achète des vêtements, qu'elle aille chez le coiffeur, chez le dentiste, ni au restaurant. Elle allait au marché du quartier et négociait les prix, un peu gênée. Elle lisait le journal une fois par semaine et assistait uniquement à des concerts ou spectacles gratuits. Contrairement aux histoires d'immigrés du Nouveau Monde, son parcours avait commencé dans un quartier chic, à Copacabana, puis à Botafogo, quartier modeste peuplé par la classe moyenne, où il y avait de nombreuses églises, hôpitaux et supermarchés. Elle s'était peu à peu éloignée des plages et se dirigeait le long des baies de Flamengo vers l'intérieur de la ville. De la Rio à la peau blanche, touristique, climatisée et toujours en tête d'affiche, elle avait rejoint la vraie Rio, celle qui était métisse, inconnue, infernale. De la Rio qui accumulait ses richesses avec un appétit insatiable à l'autre qui ne se rendait même pas compte qu'elle perdait toujours.
Les oiseaux de bois. Le livre est un recueil de 5 nouvelles, Les oiseaux de bois, Une visite surgie du passé, Le captif, Journal d'une folle, Le visiteur matinal. Des nouvelles d'abord parues séparément en Turquie de 1996 à 2006. Leur traduction par Jean Desca a été éditée en 2009 par les éditions Actes Sud. Les oiseaux de bois, 2 fragments.
Franchis la grande porte vitrée, vite! Tourne le dos au panneau gris, sévère et rébarbatif qui porte l'inscription Hôpital de T, service des maladies pulmonaires et file sans demander ton reste. Marche jusqu'à la limite de l'ombre de l'immense bâtisse et arrête-toi à la frontière du royaume du soleil. Puis, en retenant ton souffle, lentement, fais un pas en avant, le pas qui te fera sortir de l'ombre. Que le pâle soleil du nord réchauffe un peu ton dos et persuade-toi qu'il va chasser de ton esprit et effacer tous les souvenirs du passé. Laisse le soleil se jouer dans tes cheveux, qu'il fasse jaillir en cascade les couleurs de la forêt, qu'il efface les contours du monde et transforme le réel en pure clarté. Les oiseaux de bois, 2e fragment.
Phyllis avait toujours vécu dans de grandes villes. Elle ne connaissait pas la forêt. Certes, elle avait passé 8 mois dans ce sanatorium de la forêt noire, mais la forêt y était inaccessible, abstraite et mystérieuse. La nuit, l'obscurité qui s'abattait comme un oiseau devant la fenêtre, des bruissements qui se mêlaient au cauchemar et un gardien sourd-muet qui vous empêchait de sortir, de retourner vers la vie réelle, quelle qu'elle fût. Mais maintenant, elle était au cœur de la forêt. Elle la voyait vraiment pour la première fois. C'était autre chose qu'une découverte. C'était comme si deux êtres, ignorant tout l'un de l'autre, se trouvaient soudain face à face. Dieu sait pourquoi, Phyllis en fut bouleversée. Elle était affrontée à un esprit simple, primitif, aussi vaste que l'océan. Il la tirait de la coque de noix poussiéreuse qui était son univers pour lui faire entendre le son d'une toute autre existence. C'était la pulsation sauvage, rythmique et violemment colorée de la forêt baignée d'ombres bizarres, pleine de sursauts et de frémissements. Un air humide et palpitant cachait ses mystères ainsi qu'un voile de mousseline. Des arbres, des arbres, des arbres. Vieux, vénérables, majestueux, hauts, innombrables, impérieux, des arbres. À voir en ces lieux tant de miracles et tant de forfaits, ils avaient pris une expression de gravité. Ils étaient plus vieux que le temps lui-même. Poussant leurs racines au plus profond du sol, ils cheminaient vers le ciel, rien que vers le ciel, sans dévier à droite ou à gauche, sans songer à se libérer.
Le captif. Résumé. Face à la prison, une femme attend le jour. Elle relit les lettres censurées de celui qu'elle aime, tente de se croire différente depuis qu'elle est enceinte.
Au demeurant, chaque matin, à son réveil, elle pensait au bébé qu'elle avait dans le ventre, en se disant qu'à ce moment-là, il était lui aussi en train de penser à elle. Parfois, elle se contentait d'une simple image. C'était par exemple une jeune étudiante riant de toutes ses dents, les cheveux au vent, preuve vivante que la vie résiste à tout, qu'elle est invincible. Ou bien, elle évoquait cette minuscule créature aux mains déjà formées, cette tache en forme d'être humain que décelaient les ultrasons. Le plus souvent, c'était comme un miroir magique embué qui lui renvoyait, projeté hors du temps, une image intemporelle de sa propre jeunesse perdue depuis longtemps. Un petit être à la pensée encore balbutiante scrutait le monde autour de lui et y cherchait non pas l'inconnu, mais des images familières. C'était comme si, jusqu'alors, elle n'avait pas eu d'avenir. Comme si, dans sa jeunesse, son seul bien avait été cette jeunesse inutile. Pour la première fois, l'avenir prenait forme, grandissait, se logeait dans de la chair et des os. Cette créature tiède, bien vivante, qui bougeait, était faite à la fois de son sang et de ses rêves à demi brisés. C'était une attente bien définie, un vrai miracle. « Je suis une femme qui attend un enfant », disait-elle à tout venant et hors de propos, comme si elle n'y croyait pas elle-même.
Secoue un peu la poupée, époussette-la et mets-la devant le miroir. Débarrasse ses yeux de ses traces de larmes, mets-lui son masque de jour, rends-la séduisante. Aie soin de cacher sa pâleur sous plusieurs couches de rimmel et de fard si tu veux pouvoir l'insinuer dans le monde des humains.
C'est alors qu'apparaissait la femme, la déesse des marais. Elle se dressait parmi les morts et progressait dans la boue à la force des mains. Enfoncée dans la fange jusqu'aux hanches, elle plongeait ses racines au plus profond de la mémoire du monde. Des mousses, des feuilles mortes, des limaces s'accrochaient à ses cheveux. Les bêtes des marais lui avaient dévoré les yeux. Elle cachait l'homme sous sa jupe, dans la boue chaude, molle et gluante. Quand l'obscurité s'épaississait, les chasseurs et les chiens s'en allaient. Quand apparaissaient les terrifiantes lueurs vertes, que des milliers d'yeux venimeux prenaient la place des étoiles, que des myriades de chemins surgissaient pour disparaître aussitôt, et que l'on n'entendait plus que les râles du vent, personne n'osait plus s'aventurer dans le marécage, à part la femme. Elle appartenait à ces lieux. Ce vent, ce silence, ce vent terrifiant était son univers. La nuit du marécage dans laquelle morts et vivants s'interpellaient et où le noir du sol se confondait avec celui des hommes. Elle cachait dans son sein les égarés, ceux qui s'étaient perdus, les vaincus. À la pâle lumière de la lune, sans un mot, en se déchirant, elle donnait à nouveau naissance à l'homme. Mais c'est un monstre qu'elle mettait au monde. Il avait les bras à la place des jambes et les jambes à la place des bras. Il s'ébrouait et reprenait sa fuite en s'efforçant de courir, clopin clopant sur ses bras chétifs. En tombant et se relevant, en trébuchant et en rampant. La femme lui tendait une échelle tressée dans ses propres cheveux. « Sauve-toi par ici !» disait-elle en montrant le chemin ouvert dans les eaux noires par ses lourdes larmes limoneuses.
I'm a bitch.